Suivez Priorité Santé avec les sociétés Sunwa Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Sunwa Assurance. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Des bourdonnements, des sifflements, des grésillements, des bruits ponctuels ou envahissants qui concernent une ou les deux oreilles. On en sait désormais plus sur ces acouphènes qui toucheraient près d'un adulte sur 10. Des sons perçus alors qu'ils n'ont pas d'origine extérieure. Des bruits qui en réalité s'apparentent à des sensations auditives et souvent une perte de l'audition en est à l'origine. Le cerveau essayant alors de s'adapter aux défauts, eh bien, c'est ce nouvel agencement qui désorganise l'ensemble. Le risque d'acouphène augmente avec l'âge, mais il peut concerner aussi de façon précoce celles et ceux qui soumettent leur appareil auditif à un régime intensif, voire à des traumatismes sonores. Concert, profession dans une atmosphère bruyante, musique à plein volume. Au cours de cette émission, nous verrons quelles prises en charge sont proposées pour ces troubles qui peuvent devenir insupportables au quotidien. Réponse à plusieurs niveaux. Et la recherche s'est aussi saisie de cette affection pour tenter de soulager les patients, même si aujourd'hui, il n'existe pas de traitement radical, pas de traitement miracle pour venir à bout des acouphènes. Diagnostic, prise en charge des acouphènes. Avec nous en studio, docteur Christine Poncet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service ORL et chirurgie cervico-faciale à l'hôpital Rothschild à Paris. Prise en charge multidisciplinaire des acouphènes. Nous retrouverons tout à l'heure en ligne Lisa Baudet, les psychologues cliniciennes à Paris. Et puis nous joindrons en Côte d'Ivoire le professeur Marie-Josée Tanon-Hano. Elle est professeure d'ORL chirurgie cervico-faciale, chef du service ORL ambulatoire pédiatrique à l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Professeur Tanon-Hano qui est également présidente de la société ivoirienne d'ORL. Et puis en fin d'émission, on va retrouver la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali.
Priorité santé sur RFI.
On entre dans le vif de notre sujet du jour, les acouphènes, docteur Poncet. Est-ce que c'est aujourd'hui un motif fréquent de consultation dans votre service à l'hôpital Rothschild ?
C'est un motif très fréquent puisque nous sommes spécialisés dans tout ce qui est otologie, implant cochléaire, implant d'oreille moyenne. Donc effectivement, nous avons une consultation dédiée à la prise en charge des acouphènes un jour par semaine et cette consultation a beaucoup de succès entre guillemets puisqu'il y a de plus en plus de patients qui présentent des acouphènes, qui ne comprennent pas ce qui leur arrive et c'est essentiel de les voir, de les prendre en charge et d'expliquer un petit peu ce qui leur est arrivé.
En général, ils sont passés par plusieurs médecins. Il y a eu une sorte d'attente véritable d'une prise en charge parce qu'ils n'ont pas eu satisfaction, qu'ils souffrent sur le long terme.
Très souvent, en fait, les patients ont erré et malheureusement n'ont pas toujours la réponse attendue parce qu'on a l'habitude d'avoir un problème de santé et d'avoir une réponse quasi systématiquement. Comme je dis souvent, on a mal à la tête, on va prendre un petit cachet, le mal de tête arrête, on voit pas bien, on met des lunettes et puis on voit mieux. Ben, malheureusement, pour les acouphènes, on n'a pas de petit cachet bleu qui va améliorer du jour au lendemain la symptomatologie parce qu'il n'y a pas une cause d'acouphène, il y a plusieurs causes d'acouphènes, je dirais même beaucoup de causes d'acouphènes. Donc c'est ça qu'il faut bien se dire et que quand on a un acouphène, c'est qu'il s'est passé quelque chose sur les voies auditives et il faut enquêter, il faut voir pourquoi il se passe quelque chose et comment est-ce qu'on peut améliorer.
Alors, on a un message Facebook d'Ariel qui en dit beaucoup. D'ailleurs, beaucoup d'auditeurs pensent un petit peu peut-être la même chose. Elle est à Cotonou au Bénin. Elle dit « Je ne savais même pas que cela avait un nom. J'en souffre au niveau des deux oreilles de façon intermittente. » Elle s'interroge justement sur les causes de son problème. Sur ce terme d'acouphène, hein, ce drôle de mot, la plupart des personnes qui viennent vous voir, docteur Christine Poncet, ils mettent un nom sur leur problème ou c'est vous qui leur apprenez finalement ce qu'ils ont ?
Alors, moi, j'arrive souvent après plusieurs patients. Je vois aussi beaucoup de patients qui sont adressés par l'association France Acouphènes. Donc, les gens ont vraiment mis un mot sur leur souffrance. Mais il arrive que quelques patients, notamment des jeunes, disent bah, « Finalement, pour moi, c'était habituel d'entendre un vague bruit, notamment en sortant de boîtes de nuit ou de concerts ou après avoir écouté de la musique. Et bon, je savais pas que ça avait un nom. Maintenant, bah, ça me gêne un peu. Bon, on m'a dit que c'est des acouphènes. Voilà, ça arrive plutôt chez les jeunes.
Alors l'association France Acouphènes, hein, elle aide, elle prend en charge les patients qui souffrent de pathologies auditives, elle les oriente, elle les informe et elle donne cette petite illustration hein, pour nous, moi personnellement, je n'ai pas d'acouphènes, je ne sais pas forcément à quoi ça ressemble. Et ben voilà cette petite illustration sonore. Alors c'est assez insupportable, hein, il faut bien le dire. En radio, on appelle ça un larcène, on essaye de le corriger quand ça arrive. Ces bruits ponctuels, intermittents, parfois de façon prolongée. Est-ce qu'on sait justement, docteur Christine Poncet, pourquoi pour certaines personnes c'est par à-coup, et puis pour d'autres c'est lancinant, c'est long, c'est quasiment ininterrompu. Est-ce qu'on l'explique ?
Alors, on n'explique pas tout, hein. On reste encore très humble sur ce qui s'est passé. Simplement, il peut y avoir une cause déclenchante qui finalement se résout. Et bon, bah, à ce moment-là, le système va bien, la personne ressent moins. Il peut y avoir, par exemple, quand c'est un problème dû à la trompe d'Eustache. La trompe d'Eustache, c'est un petit tuyau qui part de la partie postérieure du nez et qui va jusqu'à l'oreille moyenne pour aérer l'oreille, pour équilibrer les pressions. Bah, si cette trompe d'Eustache ne s'ouvre pas bien, bah, des moments elle s'ouvre et tout va bien, des moments elle se ferme. Là, la personne ressent cette acouphène, cette sensation de pression dans l'oreille. Et effectivement, là, c'est intermittent.
Tout à l'heure, vous avez parlé de cette exposition, docteur Poncet, à des forts volumes sonores, les concerts, la discothèque. Il y a quoi d'autre comme facteur identifié parmi vos patients ? Est-ce que, par exemple, certaines maladies infantiles, on pense bien sûr aux très fréquentes otites de l'enfant, peuvent provoquer a posteriori des acouphènes ?
Ben, tout ce qui va venir interférer avec le système auditif, c'est-à-dire toutes les infections, toutes les anomalies qui peuvent survenir, bien évidemment peuvent engendrer des acouphènes, puisque un acouphène, ça veut tout simplement dire qu'il se passe quelque chose ou qu'il s'est passé quelque chose sur les voies auditives. Donc n'importe quoi.
Est-ce que vous diriez que c'est une blessure de l'appareil auditif ?
Tout à fait. Au départ, c'est une blessure et après, malheureusement, ça peut rester une cicatrice.
Est-ce qu'il y a des contextes favorisants ? Je passe bien sûr à l'univers professionnel, par exemple, des métiers à risque, à fort risque d'acouphène.
Tous les métiers à risque de traumatisme sonore. Bien évidemment.
Par exemple, dans le bâtiment, dans des univers industriels très bruyants, dans le monde de la musique à forte pression,
c'est... Alors, effectivement, tout le monde pense à ça, hein, l'univers à forte pression, les marteaux-piqueurs, tout ça. Et puis, il y a aussi les centres d'appel. Récemment, maintenant, on a eu quelques publications sur les chocs acoustiques, c'est-à-dire des personnes qui sont dans un central d'appel, qui, pour une raison ou une autre, vont être blessés par un son pas spécialement très fort, mais survenant dans un contexte particulier. Et ça peut effectivement, à ce moment-là, entraîner un acouphène.
Est-ce qu'il y a des médicaments pour prendre en charge les acouphènes ?
Alors, il y a des médicaments pour prendre en charge les maladies de l'oreille, certaines maladies de l'oreille. Il y a des médicaments qui vont améliorer la tolérance, parce que finalement notre cerveau est ainsi fait que il s'habitue à beaucoup de choses. Même s'il a une petite cicatrice au niveau de l'oreille, ça peut être la même chose quand on a une cicatrice sur le reste du corps. Au départ, on ressent cette cicatrice, puis petit à petit, notre cerveau apprend qu'il doit faire avec et visiblement il s'adapte. Et ben là, c'est la même chose. On a des médicaments qui vont peut-être un petit peu aider, hein, lorsque il y a un contexte émotionnel particulier. lorsqu'il y a un contexte dépressif. À ce moment-là, évidemment...
Ça sera par exemple des antidépresseurs.
Ça peut être des antidépresseurs qui vont être prescrits par le médecin généraliste, par effectivement le psychiatre quand le problème est quand même plus important.
Et on a bien compris ce qui fait que parfois, l'ORL ne travaille pas seul, il va travailler de concert avec d'autres praticiens.
Alors, tout à fait. Je pense que de plus en plus, on travaille en réseau. Maintenant, les systèmes de réseau sont reconnus. Il y a un label en France par l'AFREPA, qui est une association de professionnels de l'audition, autour de l'acouphène, de la prise en charge de l'acouphène. Donc, tout le monde travaille, entre guillemets, en réseau avec des audioprothésistes, des psychologues, des sophrologues, des acupuncteurs. Chacun a son propre réseau de connaissances. Et il y a un maillon indispensable, c'est le médecin généraliste, parce que c'est lui qui connaît bien le patient, qui connaît tous ses antécédents. C'est vrai que quand un patient a par exemple une hypertension artérielle ou un diabète, il faut avant toute chose que tous les autres cofacteurs soient bien équilibrés pour arriver à stabiliser et tolérer mieux les acouphènes.
Et tout de suite une illustration.
RFI.
Alors, parmi ces autres praticiens, il y a vous, Lisa Baudet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicienne. Vous travaillez en cabinet privé à Paris. Psychologue, donc, avec une formation particulière en ORL. Ça veut dire que vous travaillez directement en liaison avec les médecins spécialistes de l'oreille. Est-ce que ce sont eux qui, pour cette pratique, vous réfèrent l'essentiel de vos patients?
Alors oui, effectivement, nous les psychologues en tout cas, on travaille souvent en deuxième ligne, c'est-à-dire que le patient est déjà passé par le médecin ORL qui lui a indiqué un petit peu quelque chose au niveau de l'étiologie de l'apparition de ce symptôme-là.
Et quand justement le patient vient pour un problème d'oreille et qu'on lui dit « allez voir un psychologue », est-ce qu'il ne tique pas un petit peu en disant « on me prend pour un fou, pour une folle, on dit que j'invente quelque chose ». Il y a tout un travail, j'imagine, d'explication pour dire quel va être justement le terrain d'action du psychologue, de la psychologue, sur ce problème de sensation auditive.
Alors effectivement, en fait ce qu'il faut faire comprendre aux patients justement, c'est que même si l'acouphène n'a pas une source psychologique, de toute façon, c'est un symptôme qui va avoir des effets psychologiques. C'est ce qu'on appelle nous les comorbidités en fait, si vous voulez. Donc c'est-à-dire que c'est un symptôme qui est tellement envahissant, qui est constant, qui est perturbant pour le patient et qui va de toute façon entraîner des troubles, qui vont être souvent des troubles de l'humeur. Vous avez par exemple la dépression qui va arriver, vous avez une forte anxiété, vous avez du stress, il y a des acouphènes qui peuvent être insomniants, c'est-à-dire qu'ils vont empêcher l'endormissement, et donc on comprend très bien qu'ils vont pouvoir entraîner des troubles assez graves du sommeil et de la récupération, et ça va avoir une conséquence assez dramatique en fait, sur le bien-être global de l'individu. Donc, s'il y a une chose qu'on sait sur les acouphènes, c'est que plus vous êtes fatigué, plus vous êtes stressé, plus vous allez ressentir intensément les acouphènes.
Alors, je vous redonne la parole dans une petite seconde, Lisa Baudet. Le docteur Christine Poncet, qui est bien sûr avec moi en studio, vous voulez intervenir, allez-y.
Oui, je pense que effectivement, nous souvent, on a ce rôle un peu difficile d'aiguiller le patient et de lui dire, il faut une prise en charge psychologique. Ce n'est pas toujours simple, mais quand la personne est en vraie souffrance, en vraie détresse, au contraire, elle est souvent relativement contente d'avoir une prise en charge bien régulière auprès d'un professionnel que nous connaissons et de sentir qu'il y a un vrai travail d'équipe.
Pour bien comprendre, Lisa Baudet, votre travail porte en grande partie sur une forme de résilience. Est-ce que ça veut dire que l'essentiel, c'est apprendre à vivre avec?
Effectivement, vous avez un travail de toute façon qui est un travail de résilience, un travail de deuil aussi, avec cette nouvelle sensorialité qui va occuper à présent notre existence. Si vous voulez, le premier travail, c'est de faire identifier au patient justement que son symptôme est sensible à son état psychique. Si on ne peut pas directement agir sur la disparition du symptôme, en revanche, on sait agir sur le stress et le combattre pour éviter justement de rentrer dans une perception trop intense de ces acouphènes et sur une hyperfocalisation attentionnelle. Donc on va travailler sur le stress, soit par la thérapie par la parole, qui permet de prendre une distance avec un vécu émotionnel par la parole, mais il y a aussi plein de thérapies qui existent, qui sont plus corporelles, si on peut dire. Vous avez l'hypnose qui marche très bien, avec des praticiens qui vous apprennent à vous mettre sous auto-hypnose. Vous avez la sophrologie, vous avez l'acupuncture, la méditation. Vous avez des fois des prises d'anxiolytiques aussi qui permettent de calmer des crises intenses. Voilà, donc effectivement, c'est d'abord une prise en charge du stress et de l'anxiété pour arriver à mieux vivre avec ce symptôme-là.
Merci beaucoup pour ces explications, Lisa Baudet. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne. On vous retrouve, hein, docteur Christine Poncet. Vous, est-ce que vous diriez que c'est très fréquent cette orientation de vos patients ORL qui viennent voir, on va dire, un médecin de l'oreille vers ces autres praticiens? Il y a psychologues, mais on l'a entendu, il y a d'autres médecines, pas forcément des paramédicaux, qui vont justement pouvoir faire profiter aux patients de leur expertise.
Justement, je pense qu'une fois que la personne a un acouphène, on fait effectivement une enquête pour savoir d'où ça vient. On voit aussi quel est le retentissement de ces acouphènes. Et par exemple, moi, je travaille aussi beaucoup avec les orthophonistes parce qu'on trouve de plus en plus de patients qui ont des troubles attentionnels, qui nous disent, ben moi, mes acouphènes m'empêchent de lire, de me concentrer. Donc, il faut effectivement voir quelle est la part de troubles cognitifs éventuels. Donc, un bilan orthophonique est souvent le bienvenu pour voir un petit peu tout le retentissement. Et puis, comme le disait Lisa Baudet, on travaille avec des sophrologues, des acupuncteurs, des stomatos. Donc, on a vraiment tout un panel de professionnels, justement, pour essayer d'orienter le patient vers une prise en charge ciblée, non seulement pour le symptôme, savoir d'où vient le trouble, et puis aussi pour essayer de mieux tolérer, mieux revivre avec ces fameux acouphènes qui polluent, qui empêchent de vivre normalement.
Docteur Christine Poncet, est-ce qu'il y a des patients incrédules qui sont persuadés que ces bruits ont une origine réelle, dans la vie réelle, où finalement vous arrivez à force d'explication à les convaincre que en fait c'est un problème qui se passe, encore une fois, sans jamais préjuger d'un quelconque dysfonctionnement mental, mais c'est un problème du cerveau, tout simplement.
Alors, il y a des patients, effectivement, qui ont des acouphènes que nous disons élaborés, c'est-à-dire de la musique ou de la parole. Donc là, on sait aussi que notre cerveau peut jouer des tours, et ça peut être l'équivalent d'une épilepsie, par exemple. Donc,
mais comment on les distingue d'une hallucination, alors, dans ce cas-là?
Ça va être le travail d'équipe, de savoir entre le psychiatre et le neurologue prendre en charge. Donc effectivement, nous déjà, on ressent un petit peu le patient, on voit bien vers quel des deux orienter en premier. Et effectivement, c'est pas tout à fait la même chose d'avoir des acouphènes de ce type que des acouphènes type de sifflement, bourdonnement, grincement.
Et avant de donner la parole à nos auditeurs, on va faire une petite pause musicale avec une musique douce qui ne va pas nous laisser de bourdonnement, on l'espère, dans les oreilles. Rokia Traoré, cette année d'ailleurs, elle est la marraine de la semaine du son de l'UNESCO avec ce titre « CK ».
Biela muse utabako no
SK
kana njoya me mejoya wakana njoya
SK
nimenyine joni ndeyi chine tomvani mbai
SK
kana yela mtaka nyakoroko kede kankorotinye
Seginyo gonjogo mano wili okone horo nyemona mbe wawa bale majogo mano wili kofalite baraye malongo nwale sengoro jogo mano Obe yele muse katambere po
S.K.
Kana njuhuya nebe wawa wakana gorofo
S.K.
Nemo wabe bara minge uke kanyebe nebe wawa
S.K.
Jurudiri makasama sama ndainda inkamo nebo
S.K.
Nebe wawa sunitelela nebe wawa
S.K.
Nebe wawa koronitelebi nebe wawa
S.K.
Nebe wawa kawawa de kawawa
Rokia Traoré, comme promis, tout de suite on vous donne la parole.
Priorité santé sur RFI.
Et on rejoint le Sénégal tout de suite, la ville de Thiès, avec Carmen qui est en ligne avec nous. Bonjour Carmen.
Bonjour.
Alors racontez-nous ce qui vous arrive.
Bon, ce qui m'arrive, les problèmes d'acouphènes, je ne sais pas, parce que en général, je vivais dans le calme, tout était calme, mais un beau jour, une entreprise est venue s'installer sous mes fenêtres, une entreprise qui fait beaucoup de bruit. Bon, c'est là que j'ai remarqué aussi l'acouphène, et ça me poursuit partout. Ce sont les mêmes bruits produits dans l'atelier qui me poursuivent. Là où je vais, comme si je quitte la ville, je quitte la maison, en pleine nuit, ça me réveille, le bruit, ça me poursuit partout. Bon, je pense que c'est peut-être lié à l'atelier, je ne sais pas.
Ce sont les bruits spécifiques qui sont répétés, on va dire, on imagine, dans une entreprise de métallurgie, qu'il y a des outils mécaniques qui marchent souvent, qui font beaucoup de bruit, du martèlement peut-être, des espèces de scies qui coupent le métal. Qu'est-ce qu'il y a comme type de bruit?
Bon, il y a les meules, il y a les scies qui coupent l'aluminium. Il y a beaucoup de bruit. Et puis, il y a une tôlerie avec les marteaux qui... En tout cas, il y a beaucoup de sortes de bruit.
Des sortes de bruit, tous aussi, on va dire, simplement désagréables les uns que les autres. Et ça vous suit tout le temps, même quand vous quittez votre maison, on va dire, même si à la limite...
Quand je quitte la maison. En pleine nuit, en plein sommeil, des fois, je me réveille.
Vous en avez déjà parlé à un médecin, Carmen?
Bon, j'ai voulu voir un ORL. Je me suis dit que, est-ce que ça va marcher? Parce que, ils sont toujours là. Je me suis ressaisie.
Donc, vous n'êtes pas allé voir un ORL. On va justement demander son avis. Bien sûr, ce n'est pas une consultation au docteur Christine Poncet. Cette question toute simple, est-ce que vous conseilleriez quand même à Carmen d'aller consulter, d'aller parler de son problème d'acouphène?
Bonjour madame. Oui, moi je préconise effectivement de voir un ORL pour qu'il fasse un examen de l'audition, voir si vous avez... justement une petite baisse auditive qui témoignerait de ces chocs acoustiques que vous avez. Et puis, à titre personnel, je pense que si vous ne supportez plus ces bruits, soit il faut faire insonoriser votre maison, soit il faut porter des protections auditives. C'est triste parce que je pense, je me mets à votre place. Chez soi, on n'a pas envie de porter des bouchons ou des filtres pour essayer d'atténuer les bruits venant de l'extérieur. Mais effectivement, si c'est quelque chose qui peut abîmer votre santé, il faut pas continuer comme ça.
Et avec le témoignage de Carmen, on perçoit bien la double dimension, c'est-à-dire il y a ces bruits qui sont très désagréables concrètement, mais c'est invivable au quotidien d'avoir comme ça du bruit qui s'immisce dans la maison. On n'a jamais un temps de repos, on est toujours assailli par ce bruit.
Ah ben c'est un bruit qu'elle subit, autant un bruit qu'on accepte, on va à un concert, on est content, voilà. Là, c'est tout le contraire,
c'est une agression.
Entreprise qui s'est mise sous ses fenêtres visiblement et qui fait beaucoup de bruit et qui risque de lui abîmer ses oreilles. Je pense qu'effectivement, là, il faut absolument faire un bilan lésionnel et aller voir son ORL pour faire un examen de l'audition, voir qu'elle fasse faire des mesures dans son domicile.
Voilà, un conseil, Carmen, allez consulter un médecin pour qu'il puisse au moins voir où vous en êtes et peut-être donc vous donner quelques solutions. On vous souhaite une excellente journée à Thiès, on part pour la Côte d'Ivoire. Pour Abidjan, Siaka est en ligne avec nous. Bonjour Siaka.
Bonjour madame.
Nous sommes à votre écoute, le docteur Poncet vous écoute, allez-y.
J'ai 44 ans. Depuis environ une dizaine de mois, je peux dire, je souffre d'acouphènes. Voilà, mais bon, mais moi, je me suis rendu à l'hôpital. J'ai croisé un ORL, voilà, qui m'a pris en charge. On a même fait un audiogramme. Et bon, je peux dire que après un traitement de 3 mois, bon, il y a un peu d'amélioration par rapport au bruit, au sifflement. Voilà.
Siaka, excusez-moi, c'était quoi ce traitement que vous avez pris pendant 3 mois?
Après l'audiogramme, Voilà, on m'a donné d'abord, le médecin m'a fait prendre Nasonex, qui est un flacon qu'on aspire dans les oreilles et dans le nez. Et puis après, bon, il y a le comprimé Gencoprime et puis Bécozim. Voilà, Nasonex, j'ai utilisé ça un mois et Gencoprime et Bécozim, j'ai utilisé ça sur trois mois.
De quoi s'agit-il, Christine Poncet, d'anti-inflammatoire?
Alors, le Nasonex, effectivement, c'est un corticoïde nasal pour essayer. Je pense qu'il devait y avoir un problème de trompe d'Eustache.
Et maintenant, ça va mieux ou il reste encore des petits bruits résiduels, Siaka?
Oui, il y a de l'amélioration, mais les bruits sont encore là. Mais maintenant, je supporte ça mieux.
Vous supportez ça mieux. C'est déjà très important déjà d'avoir pu vous soulager. C'est très important. Mais par contre, est-ce qu'il reste des circonstances où vous diriez que ces bruits reviennent, ces acouphènes se font ressentir à nouveau?
Oui, surtout quand je suis exposé soit à de la musique trop forte ou bien à mon réveil du sommeil matin. À mon réveil du sommeil matin ou bien quand je suis exposé au bruit trop fort.
Est-ce que ça vous perturbe dans votre activité professionnelle, par exemple?
Bon, comme je suis enseignant, sincèrement, pour un enseignant, il va expliquer, il va parler un peu beaucoup. Donc souvent, je ressens ça un peu, ça me gêne. Maintenant, bon, comme j'ai des bouchons, j'ai des petits bouchons. Souvent, quand je vois qu'il y a une gêne, je mets et ça me soulage mieux.
Vous protégez avec un dispositif anti-bruit. C'est vrai qu'on n'a pas cité tout à l'heure parmi les professions où il y a une forte exposition. Il y a aussi l'enseignement. Hein, quand on travaille avec des petits enfants, quand on surveille les cours de récréation, c'est quelque chose.
Surtout les cantines scolaires, en fait. Le pire, c'est les cantines. Monsieur, est-ce que vous avez une petite perte auditive?
Oui, bon, quand on a fait l'audiogramme. Moi-même, j'ai fini par ressentir que mon oreille droite est en train de faire une petite baisse. Voilà, mais bon, ça c'est le diagramme. Sinon, de manière naturelle, comme ça, dans la ville, je sais que j'entends mieux, je communique avec les deux oreilles sans problème. Voilà, maintenant, moi-même, ma préoccupation normale même, c'est de savoir si les acouphènes peuvent provoquer une surdité totale dans le long terme.
C'est une question très intéressante, oui, on comprend bien cette inquiétude, docteur Christine Poncet.
Oui, c'est une question très intéressante parce que c'est souvent ce que disent les gens, ils ont peur que les acouphènes déclenchent quelque chose. Or, c'est le contraire, c'est parce que vous avez un trouble de l'audition que vous avez des acouphènes. Les acouphènes, c'est vraiment la cicatrice qui s'est passé quelque chose. Donc, c'est l'inverse. Effectivement, vous avez, c'est pour ça que je vous ai demandé si vous aviez une petite perte auditive, vous avez probablement des cellules sensorielles de l'oreille interne qui sont détruites. On a 16 000, un peu plus de 16 000 cellules sensorielles qui transforment l'énergie mécanique du son en signaux électriques. Et c'est comme un clavier de piano. Ces petites cellules, quand elles s'abîment, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas les faire renaître. On donne des traitements, notamment à visée vasculaire, ce que visiblement vous avez eu un petit peu, pour essayer de contenir et de maintenir les cellules voisines, mais on ne sait pas faire renaître les cellules qui sont mortes. Après, donc effectivement, il faut faire attention qu'il n'y ait pas plus de dégâts. Hein, comme je dis souvent, notre oreille interne, c'est comme un coffre-fort, comme le coffre-fort, donc le pique-sous.
Il faut le protéger.
Il faut le protéger. Il ne faut pas aller tirer des petites pièces de temps en temps. Il faut vraiment y faire très attention. Donc, si vous avez une perte auditive, il faut corriger cette perte auditive si elle est importante. Et sinon, il faut protéger vos oreilles. On est au 21e siècle, il y a plein de filtres. Et quand je dis protéger, c'est des fois bien faire attention à l'exposition sonore. Si vous êtes enseignant, vous avez besoin de comprendre les gens qui parlent. Donc, il faut que vous ayez un filtre qui permet de laisser passer les fréquences conversationnelles et de repousser les bruits trop forts.
Donc, mais déjà, on voit que Siaka protège ses oreilles avec ses bouchons. Il a eu une consultation ORL et un traitement au moins qui a permis de régler les problèmes les plus aigus. Donc déjà une très bonne prise en charge.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il a eu déjà une bonne prise en charge. Je pense que vous avez fait ce qu'il faut. Maintenant, il faut contenir la perte. Et donc, ne vous inquiétez pas plus que ça. Vous avez fait ce qu'il fallait. Vous êtes bien sensibilisé. C'est relativement bien. Maintenant, petit à petit, votre système auditif va compenser le problème, et il peut très bien, tout à fait, entendre de moins en moins ces acouphènes, et comme vous le dites, les entendre que quand il y a uniquement zéro bruit autour de vous, mais quand vous êtes en activité, finalement, ils ne sont pas si gênants que ça.
En milieu sonore. Merci beaucoup, hein, Siaka, pour votre témoignage. On prend un dernier auditeur en ligne. On reste en Côte d'Ivoire, mais on va tout au nord, à Boisquier. Bonjour, Yaya.
Oui, bonjour, Claire. Bonjour, docteur.
C'est Caroline, allez-y.
Bonjour.
Allez-y.
Bonjour, Caroline.
Allez-y.
Oui, moi, j'ai 30 ans et mon souci est ceci. Depuis 8 mois, je souffre des acouphènes. Mm-hmm. Au début, c'est l'oreille gauche qui a commencé à siffler. Moi, je ne comprenais pas, donc je suis parti sur les nets et puis j'ai essayé de d'interroger. On m'a dit que, bon, j'ai vu, on me dit, je vois que ces bruits, généralement, ce sont des acouphènes. Donc, je me suis rendu à l'hôpital pour tenter de comprendre ce qui n'allait pas.
Oui.
Donc, comme ça, le médecin, c'est un ORL.
Un ORL, oui, qui vous a dit quoi?
Voilà, donc, il m'a dit qu'il a fait ses consultations, mais il ne m'a pas dit ce à quoi c'était dû.
Mm-hmm.
Voilà, il m'a prescrit Vascor comme comprimé à prendre pendant un mois.
Mm-hmm.
Voilà, je suis allé, j'ai acheté les comprimés, j'ai continué à prendre. Mais comme il ne m'a pas dit ce à quoi l'exercice était dû, moi, je suis reparti sur le net pour me documenter, savoir pourquoi est-ce qu'on...
On donne ce médicament.
Voilà, ce médicament. Et j'ai vu, on m'a dit que ce médicament pouvait être soigner quelqu'un qui souffrait de l'acouphène.
Mmh. Est-ce qu'après avoir pris ce médicament, ça s'est amélioré, Yaya?
Non, après avoir pris ce médicament, il n'y a pas eu d'amélioration.
Et vous avez l'impression, en tout cas, moi, c'est ce que j'entends dans ce témoignage, dans cette question, c'est que d'une certaine manière, vous avez souffert aussi du fait qu'il n'y ait pas eu d'explication. C'est qu'on ne vous a pas dit ce que vous aviez. Je ne sais pas si vous avez écouté l'émission depuis le début. Peut-être que ça vous a éclairé. Mais en tout cas, ce que nous dit Yaya, c'est que quand on est comme lui, qu'on souffre d'acouphènes, on a besoin simplement qu'on nous dise, qu'on nous explique pourquoi et ce qu'on a.
Oui, c'est essentiel de travailler en faisant comprendre, parce que quand on a quelque chose qu'on ne comprend pas, ben, déjà on est inquiet, on se dit ben, j'ai une épée de Damoclès au-dessus de ma tête, qu'est-ce qui va m'arriver? Donc le comportement d'Yaya est tout à fait compréhensible.
On cherche.
Et effectivement, l'équipe médicale qui prend en charge ce type de soucis, mais à la limite, comme tout souci de santé, doit rechercher la cause. Et puis après, même si on ne trouve pas de cause, parce que des fois, ben, on ne trouve pas de cause, ou il y a plusieurs causes liées, ben, il faut simplement dire, ben voilà, je n'ai pas de cause évidente, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a déjà quelque chose. Et le fait, par exemple, d'avoir un examen de l'audition normal, ben, on dit, ben, il n'y a pas de gros troubles, mais possiblement, quand on fait un audiogramme, on fait 10 points sur un graphique, on a 16 000 cellules, donc on ne voit pas tout. Mais au moins, on peut rassurer en disant, il n'y a pas d'atteinte majeure, il n'y a pas de retentissement important. Et finalement, vous avez cette cicatrice parce qu'il s'est passé quelque chose, mais probablement c'est rentré dans l'ordre et c'est tout à fait minime. Voilà, donc il y a... Pour moi, c'est essentiel. En consultation, tous les praticiens maintenant travaillent avec des schémas, expliquent ce qui se passe. Les gens comprennent. Il y a des choses sur Internet, c'est vrai. Il y a des choses très bien, mais il y a aussi du un peu moins bien ou des choses compliquées qu'il faut savoir décrypter.
Des choses qui peuvent être très inquiétantes aussi. Voilà. Donc, il y a peut-être qu'il faudrait retourner voir un ORL. Je ne sais pas si vous en avez les moyens, parce que aussi ça coûte cher. Essayer d'avoir des explications, peut-être en expliquant, par exemple, le travail que vous faites, qu'il voit si vous avez une perte d'audition. Essayez de mieux comprendre ce qui vous arrive, ça vous aidera certainement à mieux faire face à ce problème. On vous souhaite une très bonne journée à Boisquier en Côte d'Ivoire et on reste tout de suite en Côte d'Ivoire.
Priorité santé sur RFI.
On vous retrouve, professeur Marie-Josée Tanoano, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes chef de service ORL ambulatoire pédiatrique à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Est-ce que justement la population ivoirienne vous semble aujourd'hui familiarisée avec ce terme d'acouphène où les gens ne connaissent pas vraiment?
Je pense que les patients ne connaissent pas vraiment, ce terme. Et même parmi le corps médical, on ne se laisse pas correctement. Donc, en fait, je pense que la prise en charge n'est pas complète, n'est pas totale. Comme on l'a dit, je viens de l'entendre, en dehors des ORL et peut-être des neurologues qui ont une petite approche, une petite connaissance de l'acouphène, les autres spécialités médicales ne savent pas toujours, les médecins généralistes un peu moins. Donc, pas de prise en charge correcte, pas d'explication, pas d'information ni de conseils aux patients.
Donc il y a un effort à faire en termes de formation et d'information.
Oui, concernant les acouphènes, oui. Je pense qu'il nous faut encore beaucoup plus de formation. Ouais.
Est-ce que c'est un motif fréquent de consultation? Je veux dire par là, effectivement, si les gens connaissent pas l'existence des acouphènes, ils viennent, ils parlent de ce bourdonnement, cette gêne, et puis vous mettez un nom dessus.
Oui, tout à fait. Mmh. Et très souvent, ils comparent ce bruit, un bruit de bourdonnement, mais surtout les acouphènes aigus, donc ce bruit de grillons qu'ils connaissent bien, avec ces petits insectes qui font ce sifflement qui est très comparable au bruit entendu par les patients. Et donc, souvent également, ils rapprochent ce symptôme à peut-être une malédiction, à quelque chose qui vient de l'au-delà. Voilà. Donc, souvent, c'est pas le premier motif de consultation, mais c'est quelque chose qu'on retrouve quand on interroge le patient.
Est-ce que c'est d'ailleurs quelque chose qui peut leur faire peur en ayant l'impression que quelque chose ou quelqu'un les habite et avant d'être venus en consultation vous voir, ils seront passés par le tradi qui aura donné des explications mystiques?
Oui, ça c'est très fréquent. Il y a souvent, ils viennent avec leur explication. Donc, comme je le dis, ils ne l'abordent pas en première intention. Mmh. Et quand on retrouve des symptômes otologiques, et quelquefois on leur pose la question, est-ce que vous n'avez pas ce signe-là? Est-ce que vous n'avez pas cette gêne? Est-ce que pour pouvoir ressortir ce symptôme-là? Donc, en premier motif de consultation, je dirais qu'on est peut-être en milieu hospitalier, dans les CHU, autour de 5 à 10% de patients qui viennent vraiment consulter pour cela.
Professeur Marie-Josée Tanon-Hanneau, qu'est-ce que vous proposez en termes de prise en charge?
Malheureusement, pour l'acouphène, déjà, la prise en charge est assez limitée. Mmh. Et pour nous, dans nos conditions de travail, c'est encore plus limité. Donc, si on a une étiologie probable à ces acouphènes-là, on sait que le traitement de la cause va supprimer les symptômes. Mmh. À ce moment-là, nous sommes suffisamment outillés pour prendre en charge les acouphènes, mais les acouphènes subjectifs sans cause identifiable, pour ça nous sommes assez démunis et en général on propose des traitements classiquement décrits même s'ils n'ont pas toujours fait la preuve tels que les vasodilatateurs etc. Et on prend la peine quand même d'expliquer aux patients que c'est pas évident mais que finalement avec l'habituation ils réussiront plus ou moins à oublier un peu ce symptôme qui est gênant s'il n'y en a pas de cause qui n'est pas dramatique. Il n'y a pas d'étiologie alarmante, il n'y a pas de cause identifiée.
Ce qu'on comprend bien, c'est que vous n'avez pas les ressources en personnel paramédical. On entendait tout à l'heure l'expertise justement d'une psychologue clinicienne. Ces ressources humaines-là n'existent pas en liaison directement avec votre spécialité pour une prise en charge multiple, c'est bien cela?
Non. D'accord. Alors, nous avons des psychologues, mais pas suffisamment de psychologues déjà pour que certaines s'intéressent à ces symptômes-là, la prise en charge de ces symptômes. Donc non, pour l'instant, nous ne les orientons pas vers les psychologues. Mmh. Nous essayons nous-mêmes de les rassurer, de leur expliquer un peu ce que c'est. Et en général, quand on sait qu'est-ce que ça peut être, et quand on sait qu'il n'y a pas de, comme on dit, de cause plus grave en arrière, parce que leur préoccupation, est-ce que j'ai pas une tumeur, est-ce que j'ai pas un cancer,
on
élimine un peu ces causes et qu'ils sont rassurés, en général, avec l'habituation.
Des craintes tout à fait légitimes. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer, justement, en termes de sensibilisation? On parlait tout à l'heure, peut-être, d'un niveau insuffisant de connaissance du phénomène, y compris au sein du personnel médical. Quel message faire passer?
Ben, peut-être qu'on essaie, déjà les ORL et les neurologues qui connaissent un peu plus ce symptôme, peut-être qu'on essaie de faire au niveau du monde médical déjà plus de formation et d'informations pour nos collègues, pour une meilleure prise en charge. Mais c'est également dire à la population que tout ce qui est anormal, un symptôme, un bruit qui n'existait pas et qui survient, doit motiver d'abord une consultation. Au-delà de la consultation, une fois qu'on aurait fait les examens et le bilan nécessaire, on pourrait leur donner soit la cause, soit leur donner les méthodes thérapeutiques, ou alors leur donner les explications qu'il faut pour la prise en charge, pour le mal qu'ils ressentent. Je pense que quand on sait de quoi on souffre, on vit mieux.
C'est tout à fait vrai. Je pense que vous êtes tout à fait d'accord avec ça, docteur Christine Poncet.
Oui, je souriais parce que effectivement nous avons le même message. Il y a quelque chose d'anormal, il faut consulter. Après, c'est aux praticiens d'expliquer, de rassurer, et souvent même quand on ne trouve rien, le patient est rassuré parce qu'il se sent pris en charge.
Et de prendre le temps de le faire aussi, ce qui est pas toujours évident,
pas
mais
simple.
Quand même. Merci infiniment, professeur. Marie-Josée Tanon-Hanno, je rappelle que vous êtes également présidente de la société ivoirienne d'ORL.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
Dernière partie de notre échange, priorité santé, on parle des acouphènes avec vous, docteur Christine Poncet. Est-ce que justement, certains de vos patients sont passés, je vais dire assez trivialement, chez le psychiatre avant de venir vous voir? Ils ont cru que c'était des hallucinations. Se sont même inquiétés pour leur santé mentale, et finalement, c'est plutôt rassurant d'aller chez l'ORL, non? Ça n'arrive pas?
Très peu. Honnêtement, très peu.
Y compris quand il y a des sons identifiés, des sons qui sont, on va dire, sensés, qui arrivent dans l'oreille.
Oui, non, très peu de... C'est peu dans la culture française d'aller voir en premier lieu le psychiatre.
En général, les gens sont plutôt réticents.
Oui,
une question qu'on n'a pas abordée, l'hérédité. Est-ce que quand on a une famille qui a parlé, on sait que, par exemple qu'une mère, un frère avait des acouphènes, souffrait d'acouphènes, est-ce qu'on a davantage de risques ou ça n'a rien à voir?
Alors, déjà, il faut savoir qu'il y a des familles de surdité. Maintenant, en France, on a fait d'énormes progrès en matière de génétique. Il y a plus de 200 gènes identifiés sur la génétique de la surdité. Donc, ça, c'est important. Quelqu'un qui a un problème d'oreille, une baisse auditive, il a quand même des risques d'avoir des acouphènes. Et effectivement, le fait de savoir que dans sa famille, il y a quelqu'un qui a su mettre un mot sur le mal qu'il a, le mal-être, cette cicatrice épouvantable qui a... empêche d'apprécier, finalement on risque un petit peu de se voir. Mais je pense que c'est plus les troubles d'oreille qui sont liés à la génétique.
Est-ce qu'il arrive qu'il y ait des gens qui changent d'emploi, qui changent de profession en raison d'acouphènes?
Alors, en raison de troubles auditifs, il y a des périodes de la vie où certaines personnes ont du mal dans leur cadre de vie parce que c'est pas très facile du fait d'acouphènes d'être concentré sur ce que va dire quelqu'un. Mm-hmm. Donc, il peut y arriver. Enfin, on peut avoir un changement de poste transitoire, un désarrêt de travail à des moments aussi. Mais je pense qu'il faut toujours lutter pour que la personne vive normalement. Pas parce qu'on a des acouphènes qu'on ne doit pas vivre normalement. Il faut s'adapter à son milieu environnant, mais il faut vivre normalement.
Essayer de vivre avec. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, docteur Christine Poncet. Je rappelle que vous êtes chef de service ORL, chirurgie cervico-faciale à l'hôpital Rothschild à Paris. Nutrition et santé dans Priorité Santé avec vous, Stéphane Besançon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Alors, on va s'intéresser aujourd'hui à un produit de la mer, mais ce n'est ni du poisson ni un coquillage. Il s'agit en effet des algues marines, bénéfices en termes d'apport en protéines, en vitamines, en minéraux. Alors, on va faire une petite leçon des choses, Stéphane, pour commencer, pour bien comprendre... C'est quoi ces algues précisément? C'est quoi la nature de ces algues?
Alors c'est des êtres vivants, c'est des plantes qui recoupent plein d'espèces et qui ont comme caractéristique commune d'être à la fois de vivre dans l'eau, de pas fleurir et aussi de faire de la photosynthèse, c'est-à-dire de produire de la matière organique à partir de l'énergie du soleil et de l'énergie lumineuse. Elles sont majoritairement classées par couleur en fait. On va avoir des algues qui vont être vertes, noires, brunes, jaunes, rouges ou bleues. Ça, je pense que tout le monde qui est déjà allé à la mer a vu les différentes couleurs qu'il peut y avoir. Il existe aussi une variété d'algues qu'on appelle des algues filamenteuses. Et en fait, parmi ces très grands nombres d'espèces, il y en a certaines qu'on peut consommer, d'ailleurs qui sont consommées par l'homme suivant les régions depuis des millénaires, et celles-là, on va les appeler des algues alimentaires. Alors, on peut prendre quelques exemples de certaines connues. Alors, une qui est très à la mode actuellement, c'est la spiruline, qui est une algue bleue. On a la laitue de mer, qui est une algue verte, le nori, qui est une algue rouge, ou encore le wakame, très consommé en Asie, qui est une algue brune.
Alors, quelles sont les propriétés nutritionnelles intéressantes de ces algues marines?
Alors, elles ont une composition qui est assez intéressante, parce que, un, elles ont peu de graisse, de lipides, peu de sucre, des fibres en bonne quantité. Elles sont aussi riches en vitamines, comme par exemple les vitamines A, C, E, K ou B12, ou quelques autres suivant les variétés. Des minéraux aussi, une grande quantité différente, du magnésium, du cuivre, du fer, du calcium ou du zinc. L'autre chose pour lesquelles on en parle de plus en plus, c'est leur capacité antioxydante, avec en contenant des caroténoïdes, des flavonoïdes ou encore des acides phénoliques, qui sont connus aujourd'hui pour bloquer ce qu'on appelle les radicaux libres, qui vont attaquer les cellules, et donc c'est un effet protecteur sur les cellules qui sont très intéressantes. Et enfin, on a une espèce, et pour ça qu'elle est un peu à la mode, qui est la spiruline, qui elle contient une très grande quantité de protéines de très bonne qualité. Donc il y a de plus en plus d'études qui sortent, qui montrent des effets, qui peuvent être protecteurs sur certains types de cancers, protecteurs sur l'évolution du cholestérol sanguin, du taux de sucre dans le sang, mais aussi des effets bénéfiques sur la fatigue ou enfin certaines formes de dépression.
Alors là, on a vu les bénéfices. Est-ce qu'il y a des risques pour la santé associés à cette consommation d'algues marines?
Alors, il y en a principalement un qui a fait l'objet d'une notification d'alerte par l'Agence nationale de la sécurité des aliments française, l'ANSES, qui mentionne que la teneur en iode dans les différents produits à base d'algues pouvant être très élevée, une consommation régulière peut conduire à un apport excessif et régulier en iode qui peut entraîner des dysfonctionnements de la thyroïde, mais également des reins ou du système cardiaque. Et donc, elle recommande dans cette alerte aux personnes qui présentent un dysfonctionnement de la thyroïde, aux personnes qui ont une maladie cardiaque, qui ont une insuffisance rénale, ou d'autres pathologies ou un traitement contenant de l'iode ou du lithium, ou aussi pour les femmes enceintes ou allaitantes, de ne pas consommer d'algues ou de composés qui contiennent des algues pour éviter un surapport en iode. C'est absolument la seule recommandation. Après, elle est très importante parce que c'est beaucoup de gens, mais c'est la seule, j'allais dire, crainte qu'il peut y avoir sur la consommation de ces algues.
D'où des recommandations. À quel conseil pour adopter une bonne consommation d'algues?
Alors moi, j'ai choisi de séparer en deux. Je pense les pays où on peut en acheter déjà facilement, parce que c'est devenu maintenant dans beaucoup de pays, on en trouve facilement. Il y a des pays où on n'en trouve pas du tout. Et aussi les zones où il y a de la sous-nutrition ou pas de sous-nutrition. Donc si on prend par exemple l'Asie ou l'Europe, où là on en a facilement maintenant à disposition et on n'a pas de problème de sous-nutrition, pour moi les compléments alimentaires à base d'algues sont pas vraiment vraiment indispensables. Ils n'ont pas montré leur plus-value. Par contre, comme on parle de diversification de l'alimentation, d'introduire ces algues dans notre alimentation comme un aliment en plus qui va amener des vitamines, des minéraux, ça c'est très intéressant. Alors les conseils pratiques, alors il faut déjà, il y en a certaines qui ont des goûts qui peuvent être un peu amers, donc commencer par celles qui sont plutôt douces pour s'habituer, comme le douce, le nori, la laitue, le haricot de mer. Pour les préparer, ben le haricot de mer se prépare quasiment comme du haricot normal ou en salade, comme la laitue de mer aussi se peut être en salade, donc ça c'est de remplacer la salade par ça, ou alors le nori ou le douce pour être incorporé dans des sauces comme d'autres types de légumes qu'on va faire revenir ou cuit à l'eau. Donc ça, c'est vraiment un aliment différent qui vient diversifier l'alimentation. Maintenant, l'autre cas, c'est par exemple l'Afrique, où on a encore des poches, on en trouve très difficilement des algues, on a encore des poches de sous-nutrition. Et là, il y a de plus en plus de pays qui ont commencé à produire de la spiruline pour faire des essais. Alors, il faut bien être très clair là-dessus, parce qu'aujourd'hui, on peut lire notamment sur Internet que c'est déjà des résultats miracles, ce qui n'est pas le cas. C'est des essais, on va voir ce que ça va donner pour incorporer de la spiruline dans les bouillies, dans les farines infantiles, ou même pour certains adultes, pour à la fois apporter des protéines, ces protéines de bonne qualité, des vitamines et des minéraux. Et c'est vrai que si ça fonctionne pour l'enfant, ça peut être extrêmement intéressant et ça peut aussi, du coup, déboucher pour l'adulte sur des compléments là, naturels qui peuvent, dans des zones où il y a des carences en protéines ou en vitamines et minéraux, être intéressants. Donc je dirais, dans les pays du Nord, un très très bon aliment pour diversifier. Dans les pays du Sud, d'attendre aussi les résultats, de voir si ces complémentations vont fonctionner. Si elles fonctionnent, pourquoi pas les extrapoler.
Merci beaucoup Stéphane Besançon. Je rappelle que vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour prépare et réalise votre émission. À Sétou Samaké, Ophélie Lassène et Didier Bleu. Lundi comme jusqu'à la fin du mois d'août, nous poursuivons notre cycle de rediffusion et vous pourrez réentendre l'émission consacrée à la santé des pieds, prévention des douleurs et des infections, comme des complications de certaines maladies chroniques qui touchent nos pieds. Restez à l'écoute de RFI et surtout, portez-vous bien, lavez-vous bien les mains et pensez au masque dans les lieux clos et en cas de forte affluence.
C'était Priorité Santé avec les sociétés Suno Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Suno Assurance. Suno Assurance, notre métier, l'assurance. Géopolitique.